UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Tu ne peux pas mener une double vie ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « C'est mon histoire », j'ai reçu Carlos qui nous a raconté la double vie qu'il a menée pendant plusieurs années. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs.
Bonjour Evelyne.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Très bien.
Bon vendredi.
Très bien, c'est un bon vendredi. Il y a des mauvais vendredis, là c'est un bon.
C'est un très très bon.
Très très bon, ok, ouais. Merveilleux, on est content pour toi Aurélie. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes qui mènent une double vie, qui le dimanche à l'église ont l'air de monsieur et madame chrétiens comme tout le monde et qui finalement dans le lieu secret mènent une double vie, ont vraiment certains vices cachés et aujourd'hui vraiment on prie que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans vos cœurs à vous qui nous écoutiez pour pouvoir sortir de cette double vie dans laquelle vous vous sentez finalement piégé, qui est absolument inconfortable pour vous. Donc je crois vraiment que le Seigneur va aujourd'hui vous délivrer et puis vous amener à une repentance sincère. Et Frank, tu vas nous parler de tout ça dans la pensée du jour. Le titre de ta pensée, Frank, est « Sache-le, rien n'est caché devant Dieu ».
En effet, et c'est une pensée très simple aujourd'hui pour ce beau vendredi, « Sache-le, rien n'est caché devant Dieu ». Et puis en fait, vous pouvez lire dans Actes chapitre 5 et les versets 1 à 6, l'histoire de Ananias et Saphira, sa femme, qui ont menti au sujet de la propriété qu'ils avaient vendue parce qu'ils voulaient bien paraître. Et puis en fait, il y a eu une grosse conséquence à leurs actions et ils voulaient vivre en fait dans l'hypocrisie. Et il y a toutes sortes de doubles vies qu'on peut y avoir. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais vous rappeler, c'est qui sommes-nous pour penser qu'on peut cacher quoi que ce soit à Dieu? Devant lui, tout est à nu. Tout, il y a rien que tu peux lui cacher. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, ce que tu médites faire dans le futur, Dieu le sait. Et puis ça, je veux t'apporter cette pensée-là aujourd'hui. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Et on peut voir une histoire qui est très intéressante, c'est dans le livre de Daniel. Et on va lire juste un passage ensemble parce que ça nous montre à quel point Dieu est tout-puissant et à quel point Dieu connaît tout, sait tout, et tu ne peux rien lui cacher. Dans Daniel chapitre 2 et les versets 19 à 22, on peut lire « Alors le secret fut révélé à Daniel. » Et en fait, c'est le roi qui avait eu un songe et il voulait savoir quel était ce songe qu'il avait eu. Et puis, je veux dire, si tu as eu un rêve hier, qui pourrait te dire c'était quoi ce rêve-là si toi-même tu t'en rappelles pas? Et puis, ici, on voit Daniel, il dit « Alors le secret fut révélé à Daniel. » Hallelujah! Parce que Daniel servait Dieu, le vrai Dieu. Et ça lui fut révélé dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. » Et la lumière demeure avec lui. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. C'est tellement, tellement fort comme verset. Le verset 22. Il va révéler ce qui est fait dans les ténèbres. Et puis aujourd'hui, je veux te dire, si tu voles des choses à ton travail, Dieu le sait. Si tu vis un adultère présentement et tu penses que pour l'instant, personne ne le sait, Dieu le sait. Il n'y a rien de caché devant lui. Si tu es quelqu'un qui a un non-pardon dans ton cœur qui est là depuis des années, devant Dieu, c'est très grave et Dieu le sait. Il n'y a rien que tu peux lui cacher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Dieu veut t'aider à t'en détourner. Qu'est-ce qui est très spécial et particulier avec une double vie? Et c'est ce que les gens vont souvent dire lorsqu'ils ont été un peu, si je peux dire, comme libérés ou que Dieu a vraiment fait une œuvre en eux et qu'ils ont pu délaisser cette double vie-là. C'est que les gens, pendant qu'ils vivent cette double vie, il y a un sentiment un peu comme d'excitation, d'adrénaline qui est là parce que tu fais quelque chose, tu penses que personne ne le sait. Et en fait, tu sais que oui, par rapport à la parole de Dieu, ça va être un péché. et tu dis, mais personne ne le sait, tu fais cette chose-là et ça peut te procurer un plaisir momentané, mm-hmm. tellement court, comme Ananias et Saphira, la parole nous dit que Satan a rempli leur cœur. Il avait mis dans leur cœur le fait de la pensée, dites ce mensonge-là et voyez, vous allez bien paraître devant les gens. Et ça, c'est ce que le diable veut faire dans chacune de vos vies si vous vivez une double vie. Il veut vous mentir pour que temporairement vous vous éloignez de Dieu, pour que vous commettiez quelque chose de grave, parce que lui, ce qu'il veut, c'est te voler, t'égorger et te détruire. Mm-hmm. Et c'est ce qu'il veut faire au travers de la double vie que tu vis actuellement. Mais comme j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu puisses en être libéré. Aujourd'hui, si tu entends ma voix et tu le sais, il n'y a personne qui a besoin de te le dire, tu le sais que tu vis une double vie, abandonne cette vie. Si tu as besoin de demander pardon, de te réconcilier avec quelqu'un, fais-le. Si tu as trop de la difficulté, tu dis, mais c'est tellement difficile, ça fait des années que je mène cette double vie-là. Personne le sait jusqu'à aujourd'hui. Frank, tu peux pas imaginer, j'ai tellement fait de choses dans cette double vie. Je parais comme un bon chrétien, mais pendant la semaine, je fais toutes sortes de choses terribles, impensables. Je regarde, j'écoute, je dis des choses que je devrais pas dire. Ben aujourd'hui, prends la décision d'aller vers quelqu'un de confiance et confesse ce que tu fais. Parce que quelque chose qui est apporté à la lumière, la puissance des ténèbres va être enlevée de cette chose-là. Et ça, on a fait une émission sur la honte récemment. Je veux t'encourager, va voir cette émission parce que la honte va te garder et peut te garder dans un certain péché ou dans une double vie. Je t'encourage, confesse-la à quelqu'un en qui tu as confiance pour être libéré. Sache que Dieu est pas fâché contre toi. Il déteste la chose que tu fais actuellement, mais il t'aime tellement toi, il veut te voir t'en sortir. Fait qu'abandonne la double vie aujourd'hui. Va vers quelqu'un de confiance, confesse-lui certaines choses s'il y a besoin. Sinon, prends la ferme décision. J'arrête parce que je le sais que tôt ou tard, que ce soit sur cette terre ou devant Dieu dans l'éternité qui est à venir, Dieu va me dire, voici ta vie. Mm-hmm. Et tout sera mis devant toi. Il y aura rien de caché. Et moi, je préfère être ici sur terre et vivre la conscience tranquille. Comme l'apôtre Paul le dit, je sers Dieu d'une conscience pure, la conscience tranquille. Il n'y a rien qui... Je me couche le soir et ma conscience est tranquille parce que je ne vis pas l'hypocrisie, une double vie ici et ça. Je préfère vivre une vie comme ça et devoir peut-être m'humilier pendant 1, 2, 3 minutes, parler à quelqu'un, ouvrir mon cœur, mais d'avoir cette conscience tranquille et d'être droit et sincère et vrai devant Dieu, devant mes frères et sœurs, et être un bon témoignage tout simplement pour ici, sur cette terre. Fait que dégage-toi de cette double vie dès aujourd'hui, c'est tellement important.
Amen. Merci, Frank. Le problème avec la double vie, c'est que devant Dieu, on n'est pas deux personnes, on est une personne. On a une âme, on a un esprit et on a un corps. Donc, dans une double vie, en fait, on est deux personnes différentes. Mais face à Dieu, c'est deux personnes. Le bon chrétien du dimanche et puis le gros pécheur de la semaine sont mis en une seule et même personne. Mmh. Oui, c'est joliment dit, je sais. Mais j'illustre, moi. J'illustre, je suis
visuelle.
Parfait,
c'est...
Et en fait, devant Dieu, on est une seule et même personne. Et le problème, c'est que si on croit qu'on peut cacher, dissimuler quelque chose à Dieu, on se trompe vraiment nous-mêmes et on méprise qui est Dieu. On méprise sa grandeur, on méprise sa toute puissance, ouais. On méprise tout de lui parce qu'on ne peut rien lui cacher. Il connaît mieux lui-même les profondeurs de nos pensées, de notre cœur que nous-mêmes. Ouais. Alors comment on pourrait croire qu'on peut, parce qu'on est chez nous, la porte de notre chambre fermée, personne ne sait ce qui se passe et Dieu ne nous voit pas. Et notre verset du jour le dit très bien, Ésaïe 29,15. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Peut-être que personne ne peut vous voir à part Dieu. Et au final, c'est ça le plus important.
Oui, et puis moi, quand je lis ce verset, il y a des personnes qui vivent une double vie. Elles ont décidé, en fait, d'élever les hommes plus que Dieu. Là, tu disais qu'on ne peut pas mépriser Dieu. Et beaucoup qui vivent une double vie, c'est parce qu'elles ont peur aussi, parfois, des conséquences de leur action qu'elles sont en train de poser dans le secret. Et c'est des personnes, en fait, au final, qui ont peur de la réaction des hommes par rapport à Dieu. Donc, elles ont élevé les hommes à un niveau supérieur par rapport à Dieu en se disant, mais dès que ces personnes-là vont connaître mon histoire, mais voici les conséquences. Pour certains, ils se disent, mais je suis déjà allée trop loin au niveau de la double vie. Et même certaines personnes se disent, mais on va me juger. Comment est-ce qu'on va me regarder par rapport à ça? Et en fait, en faisant ça, sans le savoir, on est en train d'élever les personnes autour de nous par rapport à Dieu. Parce que Dieu, il sait. Et Dieu, comme Frank l'a dit, a un cœur rempli d'amour. Le cœur de Dieu est là pour nous, pour sortir en fait les personnes qui vivent des tourments comme ça. Mais il est là pour venir te libérer, pour te racheter. Mais quand tu choisis d'élever des hommes, un homme ne peut pas, c'est pas un homme en fait qui peut t'arracher de ta double vie. Les hommes sont des canaux, comme Frank disait, tu peux aller voir quelqu'un de confiance, mais ultimement, ben c'est Dieu qui est là en fait pour secourir. Et parfois, ben commencer à le dire à Dieu, commencer à dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie devant toi, je te parle de ça, voici ce que je cache. Aide-moi, Seigneur. Ouais. Et après, le Saint-Esprit va nous diriger vers les bonnes personnes. Il va ouvrir les cœurs. Il va disposer des cœurs en notre faveur. Et c'est comme ça qu'on va voir aussi les choses changer dans notre propre vie.
Je crois aussi que c'est important pour une personne de vraiment mettre un stop, comme disait Frank, de vraiment le saisir à un moment, de pouvoir le confesser, de le dire, de le parler, de parler à Dieu. Parce que, en fait, avec ces choses-là, avec cette manière de vivre, c'est impossible d'accomplir la mission à laquelle on est appelé. Impossible d'entrer dans l'appel de Dieu. Il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Les gens qui demeurent dans une telle attitude ne vivront jamais la mission. C'est-à-dire, quand ils sont nés, Dieu a parlé des plans sur leur vie, a parlé des choses, et ils vont passer toute leur vie. Il y en a même qui sont là, qui se disent chrétiens, qui vont avancer, et ils vont essayer d'obtenir les choses, d'entrer dans les plans que Dieu... Mais ils n'y entreront pas. Ils n'entreront pas dans la mission ultime que Dieu leur a confiée. Ouais. C'est impossible. Donc, aussi longtemps qu'on laisse ce péché, cette manière de vivre, qu'on la laisse s'exprimer dans notre vie, on se retrouve dans une situation où on a l'impression de vivre notre vie, mais en fait, on la vit pas du tout. On vit pas du tout la vie que Dieu a préparée pour nous. On vit une autre vie et un jour, on meurt. On meurt et on peut se retrouver devant Dieu et malheureusement ne pas aller au bon endroit. Ne pas aller près de Dieu, pas aller vivre sa vie près de Dieu. Parce que toute la vie, on a lutté avec ça et puis on n'a jamais baissé les armes et demandé à Dieu du secours, comme disait Aurélie. C'est tellement important. C'est impossible de vivre la mission, impossible de vivre sa vraie vie si on vit comme ça.
C'est vrai.
Le monde dans lequel on vit actuellement, c'est un monde qui ne connaît pas Dieu. On se retrouve un peu comme à l'époque de Noé, qui était un prédicateur de la justice. Et il y a toutes sortes d'influences. La Bible dit qu'il y a un esprit qui agit aujourd'hui. Et il agit à travers les fils de la rébellion. Et la Bible dit que nous qui avons connu Dieu, il y a le vieil homme qui voudrait peut-être revenir, mais le vieil homme, il faut le laisser là où il est. On est censé vivre une vie nouvelle. Et à cause de cet esprit qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion, dans le siècle présent, etc., il y a des choses qui sont en train d'être dites, prononcées, crues, proclamées, ordonnées, légalisées, partout dans le monde et qui sont en dehors de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, si on n'est pas dans la parole de Dieu et dans la prière, on va se faire séduire et on va appeler le mal bien et on va appeler le bien mal. Mais il y a des choses que la nature elle-même nous enseigne. Qu'on connaisse Dieu ou pas, la nature elle-même nous enseigne l'existence de Dieu. La pureté, la sainteté, la bienséance, le fait de bien se comporter les uns avec les autres, de ne pas tuer, la nature nous l'enseigne, de ne pas voler, la nature nous l'enseigne, l'amour, la nature nous l'enseigne, la sainteté, la nature nous l'enseigne. Il y a des choses que l'homme n'est pas censé faire et qu'on voit aujourd'hui, qu'on promeut, on en fait la promotion un peu partout dans les gouvernements, des choses que l'homme n'aurait jamais dû faire parce qu'il est né pour plus que ça. Il est né pour la pureté, il est né pour pouvoir jouir de cette vie sans être obligé de se souiller et de se salir à faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Le vol, c'est une souillure. On n'aurait jamais dû voler, on n'aurait jamais dû tuer, on n'aurait jamais dû pratiquer toutes sortes d'immoralités sexuelles. à laquelle des choses qui font honte. Et des fois, effectivement, on voit ça dans des églises avec des gens parfois qui n'ont pas connu Dieu, ils sont pas nés de nouveau. Mais certains, oui. Un homme que je connais prêchait dans une église très traditionnelle, sur la crainte et la crainte de Dieu, la sainteté. Un homme est venu le voir à la fin de la réunion, il lui a dit, il s'est confessé de son péché. C'était abominable. Cet homme-là, avec des amis, allait dans des cimetières, il ouvrait les tombes et il avait des relations sexuelles avec ses morts, ses cadavres. Des choses abominables. Je suis désolé, on pourra me dire demain, et le monde pourra me dire, le gouvernement pourra dire, non mais c'est pas grave, vous pouvez le faire. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le cœur de Dieu pour l'homme de se retrouver dans des situations semblables. Il y a des choses que les gens font aujourd'hui, des actions qu'ils posent dans leur sexualité, dans leur vie de tous les jours, c'est pas le cœur de Dieu pour eux. Ils sont nés pour quelque chose de plus, de plus glorieux, de plus beau, de plus saint, de plus pur, qui va amener, qui est là pour amener du bien à l'humanité, qui est là pour amener du bien dans la vie de l'homme et de l'individu. Et si on se met en accord avec sa parole, avec ce qu'il dit et avec ce qu'il nous enseigne à travers la nature, on va être poussé vers des choses qui sont bonnes et qui vont faire avancer l'humanité.
C'est ça. Et il y a une vraie souffrance pour ces personnes-là qui vivent dans une double vie, parce qu'en fait, c'est au summum de l'inconfortable, d'avoir toujours peur de se faire prendre, finalement, d'avoir toujours peur qu'on nous dénonce, que notre vie soit dévoilée, et particulièrement dans l'Église, à savoir que peut-être un frère, une sœur va avoir une parole de connaissance pour nous, va avoir un songe. Il y a toutes ces craintes, et puis il y a cette souffrance de savoir qu'on est hypocrite, et tant qu'on n'a pas étouffé notre conscience, on est dans une souffrance. Certains sont allés plus loin, il n'y a même plus de souffrance parce que la conscience est complètement étouffée. Mais je veux m'adresser à ceux qui se sentent vraiment concernés par ce qu'on est en train de dire. C'est une souffrance terrible pour vous, et vous savez qu'on parle de vous, et vous avez essayé de changer de tellement de façons différentes, vous avez tout essayé, mais vous n'y arrivez pas, vous êtes coincé dans ces choses, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Je vous invite à regarder le témoignage qui suit, un frère, Carlos, qui est dans l'église, et vous allez voir comment Dieu l'a sorti d'une double vie qu'il a menée pendant des années. Je vous laisse écouter son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois Carlos. Bonjour Carlos.
Bonjour Evelyne.
Tu vas bien ?
Oui, merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous partager le témoignage d'une double vie que tu as menée pendant plusieurs années, et surtout nous parler de comment Dieu a transformé radicalement ta vie. Donc toi, tu es né au Venezuela.
Oui.
Et quand tu étais enfant, tu as eu une enfance très très difficile.
Oui, en effet. J'ai vécu la vie sexuelle de l'âge de 5 ans jusqu'à à peu près 12 ans. Pendant 7 ans, centaines de fois, plusieurs personnes, ça magane ton esprit.
Ça
abîme ton esprit. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que aussi, mon père n'était pas à la maison. Ils sont divorcés quand j'avais 7 ans. Et ma mère était stricte, elle était trop rigide, elle était la directrice de l'école et c'était une école militaire. Alors c'était fort. À part ça, j'ai développé à l'âge de 12 ans une hypersexualité. Je voulais tout le temps avoir des relations sexuelles avec des hommes, je cherchais partout. C'était comme quelque chose qui me contrôlait au-delà
de... À l'âge de 12 ans, t'étais tout jeune quand même.
Ouais. Même à l'âge de 15 ans, j'avais déjà touché la prostitution. J'étais déjà en prostitution. Et ça n'a pas duré longtemps. Mais c'était tout ça, jusqu'à l'âge de 15 ans, c'était pas mal, beaucoup. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à accepter ou à comprendre que j'avais cette attraction envers les hommes. Je me sentais homosexuel et j'avais pensé que j'étais né comme ça. Mais un jour, j'ai décidé de parler avec ma sœur pour lui partager qu'est-ce que j'avais vécu dans mon enfance. Je voulais pas que ça arrive aux plus petits de la famille. Et elle a parlé avec ma mère. Ma mère est venue me dire, avec des larmes aux yeux, elle m'a dit, Carlos, je suis désolé pour ce que tu as vécu, mais est-ce que si tu n'aurais été pas abusé sexuellement, tu serais homosexuel? Ces questions m'ont bouleversé parce que je me pose la question, je dis, OK, c'est vrai, de que j'ai connaissance, de que j'ai compréhension mentale, j'étais toujours exposé au sexe avec des hommes. Alors, ça pourrait. Qu'est-ce que ça fait? J'ai commencé à aller au psychologue, j'ai commencé à faire la thérapie. Parce que la psychologue, elle voulait m'aider à guérir les blessures okay. de l'enfance. Mm-hmm. Mais je lui dis, j'aimerais aussi changer. Je n'aimerais pas être ce que quelqu'un d'autre m'a influencé dans mon enfance. Et là, il m'a dit, OK, on va essayer, mais le plus j'essayais, le pire ça allait. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que donc, d'un côté, la psychologue, elle voulait que je m'accepte aussi, mais je n'arrivais pas à m'accepter. J'avais toujours cette question, qu'est-ce qui aurait arrivé si j'aurais été jamais abusé?
C'est ça.
Je me rappelle que j'ai commencé à sortir avec des filles pour me forcer à avoir l'attraction envers les filles, mais...
Ça ne marchait pas.
Ça ne marchait pas. Mm-hmm. Et après, dans cette lutte que j'avais à l'intérieur de moi, imagine-toi, j'étais addict au sexe. Mais quand j'étais avec des hommes, je pensais à la question de ma mère. Mm. Quand j'étais avec des filles, je pensais aux hommes. Alors, c'est...
C'était comme juste... divisé un peu.
Oui, je voulais m'enlever la vie. Enfin, à l'âge de 20 ans, c'était mon désir. Oh. Mais un jour, je suis allé au cinéma. Je suis allé voir le film La Passion de Christ. Mm-hmm. Et je n'avais jamais connu rien de Jésus.
En fait, tu ne connaissais rien du tout.
On était catholiques, mais Jésus n'était pas là. Oh, okay? Oui. C'était juste les vierges, les restants, mais pas Jésus. Pour moi, la passion de Christ, c'est qu'il est juste les noms. Je pensais que c'était qu'il était un passionné pour les femmes. Parce que c'était la passion. C'est la seule chose que je connaissais.
Donc, mais... c'est pour ça que tu es allé voir ce film, en fait.
Non, je suis allé parce que je voyais tous les films qu'il y avait. Mm-hmm. Mais pour moi, c'était n'importe quel film.
OK.
Mais là, tout de suite, là, le Seigneur a commencé à travailler avec moi. Et le Saint-Esprit m'a montré que Jésus avait fait ça pour moi. Et qu'il voulait me donner une nouvelle vie. Et ok, j'avais besoin d'une nouvelle vie. J'ai dit oui, c'est vrai, j'avais besoin d'une nouvelle vie. Ouais, j'étais malheureux. Tout de suite après, j'ai commencé à aller dans une église et j'ai connu le Dieu Tout-Puissant. Ok, la manifestation de Dieu Tout-Puissant, la compréhension d'un Dieu Tout-Puissant. Alors, j'ai commencé à demander à Dieu Tout-Puissant, changez-moi. Je veux plus avoir d'attraction envers les hommes. C'est une attraction indésirée. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé à lui demander, changez-moi, Seigneur, changez-moi. Et rien ne s'est passé. C'était comme s'il y avait un toit, un plafond, qu'il ne laissait pas mes prières monter. Ou, je ne sais pas, mais je me sentais que Dieu ne m'écoutait pas. Alors, j'ai commencé à avoir l'amertume. J'ai commencé à juger tout le monde dans l'église, à juger les pécheurs. Mais en cachette, j'avais un double vie.
C'est ça.
En cachette, j'ai fait toutes sortes de pratiques sexuelles, pornographie. J'étais vraiment, vraiment mal. Et je restais dans cette église pendant 3 ans. Après 3 ans, j'ai quitté l'église parce qu'il y a eu une tragédie dans ma famille. Ma soeur, qui avait 27 ans, elle est décédée dans un accident. Oh. Tout de suite, ça s'est passé. J'ai dit, c'est ta faute.
Dieu était coupable.
Oui, Dieu était coupable. Et je quitte et je me lance au fond de la débauche sexuelle. Mais quand même, j'ai connu quelqu'un, j'ai eu une belle relation avec un gars, avec un homme pendant 7 ans.
Okay.
Mais même si on s'aimait, parce qu'on a vraiment arrivé à s'aimer, et lui, il avait vécu pas mal la même chose que moi, et au fond, on voulait changer aussi les vœux, mais on n'arrivait pas. Et on a resté pendant 7 ans. Et là, en déménageant au Québec, la relation s'est finie, et... Je me trouvais plus addict aux applications des rencontres sexuelles, aux pornographies, toutes sortes de choses. Mais je continuais à aller à l'église toujours.
C'est ça, pendant toute cette période. Et les gens à l'église ne savaient pas ce que tu
faisais. Personne ne savait. Mais j'allais à l'église et je montrais une face qui n'était pas ma vraie face en cachette. Mm-hmm. Et, après ça, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré un couple chrétien qui... Je n'avais jamais vu la présence de Dieu dans quelqu'un comme ça, c'était qu'il dégageait Dieu. Et ça m'a fait désirer et dire, waouh, Seigneur, j'aimerais te connaître comme eux te connaissent. Mm-hmm. C'était une femme vénézuélienne, son mari italien. Et ça, ce désir est né de connaître Dieu à ce niveau.
D'accord.
Mais tout de suite, j'ai dit, oublie ça, je suis trop perdu, Seigneur. Je ne peux pas te connaître comme ça. Mm-hmm. Mais quelques mois après, j'étais chez une famille vénézuélienne qui habite ici. J'habitais avec eux et j'ai fait comme un bilan et je me rends compte que rien de tout ce que j'avais essayé avait marché. J'avais fait la thérapie des changements,
okay.
Avec des programmes de restauration sexuelle pour arrêter d'être gay, homosexuel. Okay. C'était une torture. Je ne recommande pas ça à personne.
Okay.
Et j'avais fait des rencontres avec des pasteurs, avec des psychologues, tout pour arrêté d'avoir l'attraction envers les hommes, oui. Mais rien n'avait marché. Mm-hmm. Et juste quelques jours après, j'ai touché la drogue pour la première fois de ma vie. Merci Seigneur, c'était juste la dernière fois ou la seule fois,
okay.
Parce que j'avais aimé.
Okay, ouais.
Juste quelques jours après, c'était jour de l'an. Et je me rappelle, j'étais avec cette famille, la famille Castro Pacheco, j'étais avec eux. Et il y avait quelqu'un, un messier de l'église, on a commencé à jaser, à parler. Mm-hmm. Et d'un coup, dans la conversation, une conversation à propos de la foi, à propos du christianisme, parce que moi j'avais la connaissance quand même. Hein. Mm-hmm. Et il me dit, Carlos, le problème avec plein de chrétiens, est-ce qu'ils ont Jésus comme leur sauveur, mais pas comme leur Seigneur.
Oh, wow.
Et cette phrase, ça m'a choqué. Je sentais comme c'était Dieu qui me parlait, parce que c'était vrai, il n'était pas mon Seigneur. Mon Seigneur, c'était moi.
Oui.
J'ai compris que la situation que j'avais vécue jusqu'à date, c'était à cause de qui j'étais mon Seigneur, ce n'était pas lui. Et ça m'a étonné aussi son amour de venir me chercher dans les pires moments de ma vie. Parce que je sentais que c'était lui qui est en train de me dire « Je ne suis pas ton Seigneur, c'est pour ça que tu es dans cette situation. » Alors, juste quelques jours après, j'ai eu j'étais avec un autre gars aussi, mais je sortais chez lui 7 heures le matin, je me sentais comme un prostitué. Et pour la première fois de ma vie, j'ai dit « Seigneur, tu sais quoi? C'est fini. Ce n'est pas important si tu me changes ou tu ne me changes pas. Ce n'est pas important si je vais être gay, asexuel, hétérosexuel. De toute façon, j'ai détruit ma vie, alors je la mets de côté, je vais te suivre. » Devient mon Seigneur.
Tu lui as donné toute ta vie, en fait.
C'était la première fois que j'ai fait ça. C'était la première fois que je lui ai dit, c'est pas important qu'est-ce qui va se passer avec moi, mm-hmm. Je vais juste te suivre.
Parce que toi, tu étais tellement fixé sur ton désir de changer, finalement, que tu...
C'était une obsession.
C'est ça.
C'était une obsession et je ne le savais pas. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que, juste quelques jours après, ça, je l'explique mieux dans mon témoignage en YouTube, Carlos Catari, ex-homosexuel.
Oui, c'est ça, vous pouvez aller voir le témoignage au complet sur YouTube.
Ouais. Là, j'ai eu comme un miracle, parce que pour moi, de plus sentir l'attraction envers les hommes, c'était un miracle, parce que j'étais vraiment, vraiment addict aux hommes. Et là, j'ai vécu ça, mais ce miracle est arrivé quand je ne les cherchais plus. C'était plus important. Ma vie n'était plus le focus sur moi. Je me suis rendu compte à ce moment que mon problème n'était pas l'homosexualité indésirée telle que je l'avais vécue. Mon problème, c'est que j'ai résisté Jésus. Et qu'il n'était pas mon Seigneur.
Mm.
C'est ça, parce que au moment que j'ai fait la place pour lui donner ma vie au complet, c'est là qu'il a agi. C'est comme si je lui donnais la permission, si on pourrait lui dire d'une façon.
Oui.
Et, tout de suite, j'ai commencé à me remplir de la parole comme un malade, comme un fou. J'ai commencé à me remplir de la parole, Et là, tout est disparu. Les pensées suicidaires, la dépression. L'attraction vers le même sexe. Tout est parti.
C'est incroyable.
Oui, c'était étonnant, mais pour moi, c'était aussi clé de comprendre. Je l'ai compris quelques mois après, que mon désir d'échanger était tellement fort, était tellement une obsession, que j'ai cherché Dieu pour m'aider avec ma vie. Seigneur, aide-moi. Ouais. Seigneur, ma vie. Seigneur, change-moi. Alors, c'est... Après, j'ai compris ou j'ai trouvé dans la parole que c'était évident que le Seigneur nous a dit 6 fois dans les évangiles. Celui qui va garder sa vie va la perdre et celui qui perd sa vie à cause de moi va la trouver. J'étais juste focalisé sur ma vie.
C'est ça le problème, oui.
Et je l'avais perdue.
Mm-hmm.
Mais quand j'ai mis ma vie de côté pour le suivre, là, je l'ai trouvée. Les deux parties du verset se sont accomplies dans ma vie.
Mm-hmm.
Pendant que j'ai cherché ma vie, je l'ai perdue. Mais pendant que j'ai mis ma vie de côté pour le suivre, là, je l'ai trouvée.
Amen.
Et c'est ça que j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de monde qui était dans cette situation, qui luttait contre l'attraction indésirée pour le même sexe, et qui sont dans l'église, et qui luttent avec une double vie. Et le plus qu'ils s'efforcent, le pire ça va, c'est comme si le plus ça augmente. Mais quand j'ai mis ma vie de côté juste pour le suivre, sans penser à moi si j'allais me marier ou pas, avoir des enfants ou pas, quand j'ai mis tout de côté juste pour faire de lui ma délice, c'est lui qui a fait le désir de mon cœur. Tel que Somme 37.4.
Mm.
Je comprends que ma vie, ce n'est pas l'exemple de toute la communauté gay. Ma vie, c'est juste ma vie. C'est dramatique.
C'est ton témoignage.
C'est mon témoignage. Mm-hmm. C'est pas la vie. Je connais des homosexuels qui sont épanouis, qui sont contents, mais je ne parle pas de leur cas. C'était vraiment mon cas. Quand j'ai partagé ça en YouTube, il y a 12 ans et demi, je n'aurais jamais pensé avoir plus de 10 000 messages des gens qui me demandent l'aide.
C'est énorme.
Dans cette situation, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ont toujours lutté, ils n'arrivent pas à s'accepter, la communauté gay, les psychologues te disent de t'accepter, mais pour eux, c'est pas une option, pour moi non plus. Mm-hmm. Changer, c'est ça qu'on voulait, mais on n'était pas capable. Mm-hmm. Mais quand on met la vie de côté juste pour lui suivre, c'est lui qui va accomplir la deuxième partie du verset.
Exactement.
En mettant ta vie de côté, tu vas la trouver en lui. Jusqu'à date, le Seigneur aussi, j'avais pensé que j'avais posé plusieurs questions. Je me demandais pourquoi, Seigneur, si tu es tout puissant et omniprésent, pourquoi tu ne m'as pas gardé? Pourquoi tu as permis que je sois abusé sexuellement? Pourquoi mon père a quitté? Pourquoi j'étais tellement rejeté à l'école? Pourquoi ma sœur est décédée?
Ouais.
Tu sais, j'avais tellement, tellement de questions.
Ce sont des questions légitimes dans un sens.
Oui, ce sont des questions légitimes et amères. C'était l'amertume. Et j'ai pensé dans un moment donné que quand j'aurais à avoir les réponses à toutes ces questions, j'aurais trouvé finalement la liberté. Mmh. Et j'ai cherché les réponses. Mais la vérité, c'est que j'ai trouvé la liberté en Jésus. Et après, Jésus m'a donné chaque réponse à chaque question que j'en avais dans mon cœur. Aujourd'hui, je n'ai même pas une seule réponse. Il m'a même répondu pourquoi j'étais abusé dans mon enfance. Pourquoi j'ai vécu tout ce que j'avais vécu. Mmh. Il m'a dit, comme à Joseph. Il a tout vécu, l'abus, les rejets de ses frères, emprisonné, tout ça, mais pour le salut de son peuple. Et là, le Seigneur il m'a dit, tout ce que tu as vécu, c'était parce que tu as un but supérieur à ta propre vie.
Wow.
Ça m'a donné une guérison totale dans cette blessure de l'abus sexuel. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, mais la clé, c'est que je n'étais plus focalisé sur moi.
C'est ça, en fait.
Et pour moi, un verset qui est Réma, c'est Psaume 37:4. Fais de l'Éternel tes délices et il donnera les désirs de ton cœur. J'étais juste qui focalisait sur les désirs de mon cœur.
Oui.
C'était juste ma vie, mon futur, ma vie, mes plans, mais les promesses. Parce qu'on reçoit les promesses pendant qu'on est dans l'église. Tu vas te marier, tu vas alors tout. Les promesses, l'accomplissement de la promesse. Mais c'était juste que ta vie.
Mm.
Alors pendant que j'étais focalisé sur ma vie, je ne faisais plus les délices, mes délices de lui.
Exactement.
Mais quand je l'ai mis de côté juste pour me focaliser à lui, on comprend que les versets, c'est clair. Fais de lui, ta délice, lui, il s'accomplit, il prend charge de l'autre côté, de l'autre partie du verset. Et c'est ça que je suis en train d'expérimenter aujourd'hui. Je ne peux pas te dire à quel point j'ai vu dans la joie, une joie que je ne savais pas que ça existait. Une vie si heureuse que je ne savais pas que était possible. Ma mère est partie aussi il y a 4 mois et jusqu'à là, je ne pleure pas parce que je sais qu'elle est avec lui.
C'est ça, parce qu'elle a connu le Seigneur.
Elle a connu le Seigneur 10 mois avant de partir.
Wow.
Alors, c'était comme mon désir que je n'étais pas capable d'accomplir, mais lui, il accomplit aussi. C'est juste des cadeaux que je reçois aujourd'hui.
Exactement.
Je ne sais pas, je ne saurais pas à quel point j'aurais désiré avant d'abandonner ma vie en lui, juste me remplir de la parole sans condition, sans lui dire « Ok, je te cherche, mais il faut que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses... » Non.
C'est ça le problème.
Ouais. Mm. Je te cherche parce que tu es Dieu et c'est tout.
C'est tout. Peu importe ce que tu fais ou ne fais pas dans ma vie, finalement.
Oui, ouais. Mais à la fin...
Ma vie t'appartient.
Aujourd'hui, à cause que je mange la parole, je me rends compte qu'il a plein de bien pour moi.
Ah oui.
Qu'il m'aime, qu'il est pour moi, qu'il est avec moi, que la solitude, c'est un mensonge. Qu'il avait des plans avant de me créer. Alors, c'est toutes des vérités qui font partie de moi aujourd'hui. Et que je marche dans cette joie tout le temps. Mais je ne savais pas que ça existait, honnêtement. Et si je l'aurais su, comme je t'ai dit, je m'aurais abandonné avant.
Oui, c'est ça. Tu me disais, quand on parlait de ton témoignage, tu me disais que tu avais fait en fait une idole de ton désir de changer. En fait, c'était devenu une idole dans ta vie et que c'était vraiment un frein et un obstacle entre Dieu et toi finalement.
Oui. Parce que n'importe quoi que ce soit une idole, c'est en train de prendre la place de Jésus.
Exactement.
Mais quand j'ai mis mon idole de changer, je l'ai mis de côté pour le suivre à lui. C'est lui qui a donné le désir de mon cœur. Mais c'était plus important. Honnêtement, on sait qu'on a vraiment abandonné la vie en lui. Quand on est content malgré la situation. Quand on est dans la joie, malgré si tu as changé ta
vie,
rien te donne la joie parce que tu comprends qu'il t'aime, qu'il a payé pour toi, que ton passé n'existait plus. Là, tu comprends que tu as vraiment abandonné ta vie. Mm. C'est pas que, OK, Seigneur, je te cherche, mais je vois rien. Je vois rien, Seigneur. Non. C'est vraiment, Seigneur, c'est plus important. Je mets tout de côté. C'est toi, ma vie. C'est toi le plus important. Et c'est ce message que je partage.
Oui.
Moi, je cherche à changer personne. j'étais pas capable de m'échanger moi-même.
Tu peux changer personne,
non,
c'est sûr.
Alors, mais je cherche que toutes ces personnes qui luttent avec, qui sont pas contents dans leur situation d'attraction indésirée envers le même sexe, qui puissent juste arrêter de chercher une réponse, mets ta vie de côté, commence à te remplir de la parole, laisse la parole te nettoyer par dedans. Et tu vas voir qu'il va accomplir sa partie du verset parce qu'il est fidèle à sa parole.
Amen. Amen.
Et c'est mon désir. Mon désir, c'est que tout le monde puisse trouver qu'il puisse avoir cette rencontre que j'ai eue avec lui. Mais en plus, je comprends que c'est lui qui voulait avoir cette rencontre avec moi.
Oui.
Mais moi, je l'ai empêché. J'avais mes bras gardés.
Fermés. Mm-hmm. Ouais.
Aussi, j'ai compris une autre chose. Ça fait 3 ans que je marche dans cette nouvelle vie.
Oui.
Et 3 ans que je lave mon cerveau avec la parole.
Mm-hmm.
Et avant, pendant 20 ans, j'étais addict à la pornographie. Alors, j'ai décidé de changer. Seigneur, changez-moi. Mais tout ce qui sortait de moi était pas mal mêlé avec tout ce que j'avais dans mon cerveau.
Oui.
Alors, la source de ma vie, c'était pas vraiment...
Ton intelligence a été renouvelée, en fait.
Oui, exactement. Alors, il faut vraiment arrêter de chercher des choses avec une pensée qui est tellement contaminée. Mets ta vie de côté, juste remplis-toi de sa parole, laisse la parole te nettoyer, laisse la parole faire ce qu'il doit faire, comme on se dit en Isaïe 55.
Amen.
C'est pas mal mon message, c'est pas mal mon désir et c'est la joie que je partage.
Merci Carlos, vraiment ton témoignage est édifiant et encourageant. Et puis vraiment j'encourage tous ceux qui nous écoutent à prendre cette décision, faites de Jésus le Seigneur de votre vie, peu importe la double vie que vous pouvez mener, faites la décision que Carlos a prise, prenez cette décision et vous ne serez pas déçus. Merci Carlos d'avoir osé venir témoigner de ton histoire, de ta vie et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi.
Merci, merci beaucoup.
Je pense vraiment que vous avez aimé ce témoignage qui est vraiment édifiant et à la gloire de Dieu. On voit ce que Dieu peut faire quand quelqu'un s'abandonne réellement entre les mains de Dieu. Et vous à la maison, si ce témoignage vous a touché, certainement le frère Carlos nous a parlé d'une situation particulière qui était la sienne. Vous n'êtes peut-être pas dans la même situation que lui, mais vous menez aussi une double vie. Vous avez vraiment la possibilité de vous en sortir en faisant comme lui, simplement en vous abandonnant réellement entre les mains de Dieu, en faisant de Jésus-Christ pas seulement votre sauveur, mais votre Seigneur aussi. Puis en faisant tomber cette idolâtrie, quel changement! Vous désirez tellement changer que ça devient une obsession dans votre vie. Mmh. Je dois changer. Mais à partir d'aujourd'hui, au lieu de fixer vos regards sur ce que vous devez changer, ce que vous devez bouleverser dans votre vie, la personne que vous n'êtes pas, vous pouvez fixer vos yeux sur le Seigneur. Et plus vous allez vous approcher de Dieu, vous allez être transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu, passez du temps dans sa présence, imprégnez-vous de sa présence. Et peu à peu, vous allez devenir une nouvelle personne. Et prenez, comme Frank l'a dit, la décision de confesser. Sortez des ténèbres, approchez-vous de la lumière. Osez aller parler à votre pasteur, à une personne de confiance. Dévoilez la vie que vous êtes en train de mener dans le secret. Et le Seigneur va vous libérer, vous allez pouvoir devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être et sortir de cette souffrance interminable. Merci à vous tous pour cette émission qui était vraiment importante, je pense, à faire et pour que dans l'Église, on sorte des ténèbres, en fait, qu'il n'y ait plus que la lumière qui règne dans l'Église. Et puis, je vous souhaite à tous un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour encore de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.